Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Ce programme radio est diffusé depuis les studios SBS sur les terres non cédées de peuples Bunurong, Bunurong et Wurundjeri. SBS French reconnaît et respecte les gardiens traditionnels de toutes les terres et les anciens passés, présents et émergents. Nous reconnaissons que les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres entretiennent un lien spirituel et culturel unique, ininterrompu et fort avec la terre et les eaux, et pratiquent une langue, des traditions et une culture qui enrichissent notre vie et notre identité en tant que nation.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 4 juillet. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour ce programme en français. Au sommaire, le journal, les sports, le personnage de la semaine et les célébrations. Et on vous parlera des célébrations de Bastille Day à Federation Square à Melbourne prochainement. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Tout d'abord, les grands titres de ce dimanche 4 juillet, trois résidents d'une maison de retraite de Sydney ont testé positif pour le COVID-19 alors que l'État enregistre 16 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Cette semaine et jusqu'au 11 juillet, c'est NIDOC Week et le thème de cette année est Heal Country, appelant à une plus grande protection des terres, de l'eau, des sites sacrés aborigènes et du patrimoine culturel. Trois résidents d'une maison de retraite de Sydney où deux travailleurs ont testé positif pour le COVID-19 la semaine dernière ont contracté le virus. Les trois résidents de l'établissement de Balcombe Hills de Summit Care sont entièrement vaccinés avec le vaccin Pfizer, ne présentent aucun symptôme et sont de bonne humeur, a déclaré Summit Care dans un communiqué ce dimanche. Deux des trois résidents ont été transférés à l'hôpital de Westmead hier soir par mesure de précaution, l'établissement étant désormais totalement verrouillé avec un nettoyage en profondeur et des tests réguliers en cours. Les 223 membres du personnel et résidents ont été testés pour le COVID-19 hier samedi et ont donné tous des résultats négatifs. La médecin en chef, Dr. Kerry Chant, satisfaite de voir que la majorité des résidents ont aussi été vaccinés.
Now, pleasingly, those three individuals were fully vaccinated. But out of the abundance of caution, they've been offered transfer to Westmead Hospital for observation. And to date, no further residents have tested positive.
La chef de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré qu'il était trop tôt pour dire si le verrouillage du Greater Sydney, de la Central Coast, des Blue Mountains et de Wollongong sera prolongé au-delà du 9 juillet prochain. Il y a eu, comme je le disais, 16 cas acquis localement ce dimanche. 13 de ces personnes sont déjà en isolation. Gladys Berejiklian a déclaré que les prochains jours étaient, je cite, « absolument critiques ». Le Queensland a enregistré un seul nouveau cas acquis localement sur plus de 14 000 tests effectués pour le COVID-19. Les tests révélant que le cas est de la variante Alpha. Les autorités sanitaires de l'État ont émis une nouvelle alerte pour les sites d'exposition à Brisbane et dans le sud-est de l'État, quelques heures seulement après la fin du verrouillage instantané de 4 jours. Plus d'une douzaine de sites d'exposition ont été annoncés, dont des sites à Yumundi, Sunshine Beach, Karina, Carindale et Tingalpa. La médecin en chef, Dr. Janet Young, a déclaré que le cas du centre communautaire grec était lié à l'épidémie du restaurant portugais.
So there were those two new cases overnight, one in hotel quarantine and the second in home quarantine, went into home quarantine on the 2nd of July because they were a close contact of the Greek community centre. So they've now been admitted to hospital. Then there is another person of interest that I'm just doing further testing on, another close contact from the Greek community centre.
Dr. Young déclare aussi que le port du masque à l'intérieur continue de rester obligatoire dans l'État pour les 12 prochains jours. Plus de 4000 personnes sont actuellement en quarantaine à domicile dans l'État du Queensland. La ministre fédérale Anne Ruston a déclaré qu'elle aimerait voir les frontières nationales et internationales s'ouvrir dès que possible. La semaine dernière, le Premier ministre a annoncé un plan en 4 étapes pour sortir l'Australie de la pandémie de COVID-19. Le cabinet national a accepté un plan en 4 étapes pour que l'Australie passe de la tentative de suppression du COVID-19 à la situation telle qu'elle était avant le virus. Chaque nouvelle phase serait déclenchée par l'atteinte d'un seuil de vaccination exprimé en pourcentage de la population éligible. Anne Ruston a déclaré à Sky News que l'ouverture de l'Australie devrait dépendre aussi de ce que les experts de la santé ont à dire.
Every Australian wants us to be able to get to stage 4 as quickly as possible, but we can only do that if we know that the health and safety of Australians is being protected along the way. So we'll have to wait for the medical advice to come in and all the other advice to come in, but you know, like you, I hope that the borders are open as soon as possible.
Une nouvelle campagne vidéo vise à stimuler l'adoption du vaccin contre le coronavirus parmi les différentes communautés de Melbourne. Les personnes impliquées affirmant qu'un manque d'informations dans la langue a conduit à l'hésitation de certains migrants. Les vidéos seront diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux et seront également produites en anglais et en auslan. Une campagne Connect to Country tente de changer la compréhension que les Australiens ont du pays traditionnel dans lequel ils vivent. La campagne, une collaboration entre l'agence aborigène Creative X et Facebook, arrive à temps pour la semaine Night Doc, la célébration annuelle de la culture et des réalisations des aborigènes et des personnes du détroit de Torres. La campagne cherche à faire connaître les noms de lieux traditionnels en Australie grâce à une campagne sur les réseaux sociaux. Le thème de Night Doc de cette année est Hill Country, appelant à une plus grande protection des terres, de l'eau, des sites sacrés aborigènes et du patrimoine culturel. Une énorme coulée de boue causée par de fortes pluies a détruit au moins 10 maisons et endommagé des centaines d'autres au Japon. Au moins 2 personnes sont décédées et une vingtaine d'autres sont toujours portées disparues de la préfecture de Shizuoka, au sud-est de Tokyo. Les masses de boue ont tout aplati sur leur passage, des pylônes électriques, des voitures, des immeubles résidentiels entiers s'effondrant et les rues s'enfonçant dans la boue. Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré qu'il faudrait un certain temps avant que le plein impact ne soit connu.
We are currently working to understand the situation of the damage, the landslide that swept away some people and many houses, especially in Izusan area in Atami, Shizuoka Prefecture, has brought big damages.
En France, maintenant, avec le congrès du Rassemblement national qui a lieu ce week-end à Perpignan, où Marine Le Pen sera probablement réélue présidente à la fin du meeting et présentée comme candidate pour la présidentielle de 2022. Mais il y a des doutes au sein du parti après la débâcle des régionales le week-end dernier. Les précisions de Anne Souhaitemont pour Radio France Internationale.
Merci mes amis.
Probable futur président du parti lorsque Marine Le Pen se lancera à 100% à l'assaut de l'Élysée, Jordan Bardella commence par rendre un vibrant hommage à la candidate à la présidentielle.
Depuis 20 ans, Marine Le Pen aura eu raison sur tout et avant tout le monde.
Une opération sauvons le soldat Marine Le Pen, car la débâcle des régionales a laissé des traces chez les électeurs et même chez les militants les plus attachés à la présidente du parti. Marie-France et Amandine ont fait plus de 1000 km pour venir jusqu'à Perpignan. Elles sont encore sonnées par les résultats de dimanche.
Elle est peut-être un peu fragilisée, mais on va remonter, hein, on va surmonter tout ça et voilà.
J'espère qu'elle réussira à gagner. On verra bien ce que ça donne.
Alors évidemment, la plupart des participants veulent positiver.
Je ne suis pas du tout inquiet, on va retrouver notre présidente en pleine forme.
Mais de petites voix s'élèvent pour contester l'entreprise d'ouverture, de normalisation du parti, lancée par Marine Le Pen voilà 10 ans.
Moi je suis un ancien, donc je vais dire repartir sur les bases de Jean-Marie, parce que là elle part un peu, peut-être un peu trop à droite, un peu trop à l'air.
Une stratégie que Marine Le Pen ne devrait pas renier lors de son discours de dimanche, face à un parti en plein doute.
Les rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec les discussions autour de l'après-pandémie, alors que dans le pays, on redoute une nouvelle vague du Covid-19. Dominique Bayard, RFI.
Au moment où on commence à parler de la sortie du quoi qu'il en coûte, va-t-on vers une nouvelle crise sociale ? C'est la crainte qui s'exprime en filigrane à travers l'enquête présentée ce matin par Jérôme Fourquet, le directeur de l'IFOP.
La façon dont avait été gérée la crise du Covid a conforté beaucoup de Français dans des représentations économiques qui peuvent à terme poser problème. Quand les politiques veulent, ils peuvent. Comment va-t-on réagir quand on va progressivement retirer la perfusion.
Pour la classe politique, restaurer les finances publiques est un devoir, estime Xavier de Romanet. Mais comment vont-ils faire, s'interroge le patron des aéroports de Paris.
Il va y avoir une difficulté à l'exercice de la fonction politique dans les 10 années qui viennent qui va être totalement inconnue pour l'ensemble de nos compatriotes. L'idée même de la reprise de contrôle des finances publiques est un gros mot.
Le message des gilets jaunes des ronds-points n'a toujours pas trouvé de réponse dans notre pays.
C'est Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, conforté par les régionales et candidat à la présidentielle, qui lance cette mise en garde.
Et si l'on pense aujourd'hui qu'on va pouvoir enjamber tout cela et repartir comme avant, en indiquant aussi qu'on est sur une reprise économique très bien, qu'il y a le retour de la croissance, tant mieux. Mais la croissance n'est jamais égale pour tous. La crise que nous avons connue des Gilets jaunes est un dernier avertissement et nous connaîtrons une secousse plus importante.
Dans la campagne de l'élection de 2022, le thème de la crise sociale qui gronde s'est déjà imposé.
Et puis le départ pour les grandes vacances, c'est ce week-end en France. Les Français restent pour la plupart dans l'Hexagone. Écoutez Didier Arino, directeur de Pro Tourisme.
Les Français sont beaucoup plus nombreux à partir cet été. On va assister à des chiffres records de départ en vacances, puisque 37 millions de nos concitoyens partent en juillet ou août, ou envisagent de partir pour ces vacances, et avec une durée de séjour plus longue, de 12 jours contre 10 les années précédentes, ça signifie qu'il y aura beaucoup plus de nuitées, donc beaucoup plus de monde dans les destinations de villégiature, et ça compensera largement la baisse importante des clientèles étrangères, que ce soit les clientèles européennes, ou pire encore, les clientèles lointaines. Donc on peut dire que les indicateurs sont au vert, et même le risque de variants nous touche moins, puisqu'il y a véritablement danger lorsqu'on part dans des destinations étrangères, mais pour l'instant, les taux sont relativement faibles.
En Afrique maintenant, en République démocratique du Congo, une crise s'annonce avec les vaccins. Des milliers de doses d'AstraZeneca sur le point d'être perdues à cause de la date d'expiration du 11 juillet prochain. Explication de Patient Ligodi pour RFI.
Aujourd'hui, il faut trouver rapidement au moins 50 000 doses pour les personnes ayant déjà reçu la première injection d'AstraZeneca. Le pays compte une fois de plus sur la facilité COVAX, selon Jean-Jacques Mbungani Mbanda, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Les discussions sont avancées pour obtenir ces vaccins dans le délai requis par l'OMS. Selon lui, le pays attend 5 900 000 nouvelles doses. Pour cette nouvelle campagne, aucun calendrier n'est encore disponible. Ces nouveaux lots concerneront plusieurs familles de vaccins et le gouvernement multiplie des initiatives. Le pays discute avec la Chine pour avoir quelques doses du vaccin Sinovac. Des discussions directes également sont en cours avec Pfizer. Là encore, le nombre exact des doses et les délais ne sont pas encore connus. L'autre possibilité, c'est à travers l'Union africaine. Des échanges ont été entrepris aussi pour obtenir le vaccin Johnson & Johnson. Il restera alors le défi d'éviter les couacs de la première campagne et mieux organiser la logistique et le plan de distribution de tous ces vaccins pour atteindre au moins 25% de la population vaccinée le plus tôt possible.
Direction le Canada, avec l'ouest du pays ravagé par les incendies. Et en Colombie-Britannique, on craint un nouveau départ des feux. Le point avec Marie Normand sur place pour RFI.
La plupart des incendies sont localisés autour de Kamloops, dans le sud de la Colombie-Britannique. Plus de 1000 personnes ont déjà dû quitter leur domicile, mais les résidents de cette province sont invités à suivre attentivement les directives des autorités qui pourraient procéder à de nouvelles évacuations ce week-end, car de nouveaux départs de feu sont attendus. Pourquoi ? Il y a d'abord la chaleur, comme l'expliquent les météorologues canadiens. Le thermomètre a atteint 49,6 degrés par endroit cette semaine, une chaleur qui s'ajoute à une sécheresse exceptionnelle ces dernières semaines. Les scientifiques notent aussi qu'en 24 heures, la foudre a touché le sol plus de 100 000 fois en Colombie-Britannique, entre mercredi et jeudi par exemple, et c'est au cœur de cet immense orage que le village de Lytton a presque entièrement brûlé, centre-ville inclus. Cette vague de chaleur se déplace maintenant vers l'est, vers les prairies du centre du Canada. Des renforts ont été demandés à l'État fédéral. 350 soldats de l'armée canadienne doivent être déployés pour aider à combattre ces incendies.
Et on passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 18 degrés, Adélaïde 14, Melbourne 12, Hobart 11, Canberra 9, Sydney 16, Brisbane 22, Cairns 27, Darwin 31 et à Alice Springs, maximal de 15 degrés. Un rappel des grands titres de ce 4 juillet. Trois résidents d'une maison de retraite de Sydney ont testé positif pour le Covid-19 alors que l'État enregistre 16 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Cette semaine et jusqu'au 11 juillet, c'est NIDOC Week et le thème de cette année est Heal Country.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French. Vous êtes avec Radio SBS en français.
Ce programme radio est diffusé depuis les studios SBS sur les terres non cédées de peuples Bunurong, Bunurong et Wurundjeri. SBS French reconnaît et respecte les gardiens traditionnels de toutes les terres et les anciens passés, présents et émergents. Nous reconnaissons que les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres entretiennent un lien spirituel et culturel unique, ininterrompu et fort avec la terre et les eaux et pratiquent une langue, des traditions et une culture qui enrichisse notre vie et notre identité en tant que nation.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le foot, l'Euro avec l'Angleterre qui écrase l'Ukraine 4-0. Bilan avec Antoine Grenier pour Radio France Internationale.
Oui, c'est à croire que l'Angleterre ne veut finalement pas sortir de l'Europe. En tout cas, elle veut pas sortir de l'euro et ça s'est vu hein, ce soir. C'était pas Fontenoy, mais clairement, les Anglais ont tiré les premiers dès la 4e minute par Harry Kane, parfaitement servi par Raheem Sterling dans la surface. Il vient placer un pointu, Harry Kane, très important parce que ça change un petit peu la face du match face à une équipe ukrainienne qui, en plus de la blessure de Christophe, son défenseur central assez vite dans la partie, mais n'a pas trouvé les clés, a été tout simplement assommé par les coups de tête de cette formation anglaise, parce que au retour des vestiaires, les Ukrainiens ont pris trois buts de la tête. Ça venait de la droite, ça venait de la gauche, mais au final c'était la même chose. Un buteur anglais tout seul qui plaçait sa tête pour battre Buchanan, Maguire, Kane à nouveau pour un doublé, puis Henderson à la 65e minute. Bref, l'Angleterre ce soir s'impose. Les Anglais qui ont tiré 10 fois, qui ont cadré 6 fois et qui ont marqué 4 buts. Ce soir, l'Angleterre était chirurgicale et l'Ukraine était impuissante.
Et dans l'autre match, le Danemark a battu la République tchèque 2 buts à 1. Marie-Amélie Mott pour RFI.
Qui aurait pu imaginer les Danois en demi-finale de l'Euro il y a un mois ? Pas grand monde, a priori. Le Danemark devient la première équipe de l'histoire à atteindre le dernier carré de l'Euro après avoir perdu 2 matchs de poule. C'est une véritable épopée que sont en train d'écrire Youssouf Poulsen et ses coéquipiers. Alors tout à l'heure, ils ont rapidement plié le match. 2-0 à la mi-temps grâce à Thomas Delaney et Kasper Dolberg. Patrick Tchik a ensuite réduit le score pour les Tchèques, mais sans conséquence. 2 buts à 1, score final. On a vu des scènes de joie incroyables à Copenhague, la capitale danoise. Et l'émotion est d'autant plus grande dans le pays que la compétition avait commencé de manière dramatique avec l'arrêt cardiaque du capitaine Christian Eriksen lors du premier match contre la Finlande. C'est pour lui que tous ses coéquipiers jouent désormais, c'est pour lui que le pays vibre. Écoutez l'émotion de Thomas Delaney, élu homme du match tout à l'heure.
C'est incroyable ce que nous avons vécu. C'est difficile à décrire maintenant. Ce n'était pas notre meilleur match, mais justement, c'est peut-être lié à ce moment à Copenhague où nous avons lutté, où nous nous sommes battus. Peut-être que nous avons écarté ce moment aujourd'hui. Et maintenant, c'est juste énorme. C'était notre objectif depuis le début de revenir à Wembley, car c'est là que nous avions joué en Ligue des Nations. Maintenant, nous y sommes, c'est dur à croire. Nous avons une bonne équipe, il y a une super ambiance, donc pourquoi ne pas aller encore plus loin ?
Aller encore plus loin comme en 1992, l'année du sacre pour les Danois à l'Euro, Marie-Amélie.
Oui, il s'était imposé à la surprise générale. Alors peuvent-ils à nouveau créer l'exploit ? Les hommes de Kasper Hjulmand totalisent 11 buts dans le tournoi, Antoine le disait tout à l'heure, meilleur total de leur histoire à l'Euro. Ils produisent un football dynamique, rapide, enthousiasmant. Et vu ce que les Anglais ont proposé ce soir contre l'Ukraine, on peut s'attendre à une très belle demi-finale mercredi à Wembley.
Pour rappel, vendredi, l'Italie a dominé la Belgique 2-1 et jouera l'Espagne en demi-finale. L'Espagne qui a gagné au tir au but 3-1 après prolongation contre la Suisse. Cédric de Oliveira, Radio France Internationale.
La Squadra Azzurra qui a remporté le choc des quarts de finale face à la Belgique 2-1 dans un match très enlevé. Et les transalpins entreprenants ont marqué grâce à Barella et Lorenzo Insigne. Le joueur napolitain, auteur d'une magnifique frappe enroulée, son deuxième but du tournoi. Insigne qui se sent bien avec le maillot de la Squadra.
Je prends beaucoup de plaisir, je n'ai jamais eu autant le sourire en jouant. C'est comme si je tapais dans le ballon à la maison avec les copains. Je m'éclate en fait. Il faut vraiment rendre hommage à notre entraîneur, il nous permet de pratiquer notre meilleur football. Tous les joueurs prennent du plaisir. Mais nous devons continuer à travailler, continuer à faire des efforts. Nous n'avons encore rien gagné.
Lorenzo Insigne au micro d'Hugo Moissonnier. En demi-finale, l'Italie affrontera donc l'Espagne qui est difficilement venue à bout de la Suisse. Un partout, mais 3 tirs au but à 1. Contrairement au match face à la France, la Nati a complètement manqué cette séance. 3 tirs au but ratés.
Les supporters belges étaient naturellement déçus. On les écoute sur European Broadcasting Union.
À la deuxième mi-temps, on a vraiment cru qu'on allait pouvoir marquer. Quand il y avait penalty, on était hyper contents et tout, et on a cru qu'on allait réussir à le rattraper, et au final ça n'a pas marché. Mais ils ont hyper bien joué, on est hyper fiers d'eux, et du coup c'est génial.
C'est l'espoir de dire qu'on aura notre équipe à la Coupe du Monde, et la déception
à l'Italie,
la déception d'avoir perdu contre, pour nous, ce qui sera le vainqueur de l'Euro.
Bah, félicitations à l'Italie.
Ouais, félicitations à l'Italie.
Vraiment. On s'est donné à fond, on a fait notre mieux, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Mais pour la Coupe du Monde, on est là.
Ayez peur.
On passe au Tour de France. Hier, la 8e étape, la première dans les Alpes, gagnée par le Belge Dylan Teuns. Tadej Pogačar a pris le maillot jaune. On l'écoute.
Yeah, for sure. After yesterday's stage,
c'est vrai qu'après l'étape d'hier, il fallait réagir et j'ai saisi cette opportunité. Vous savez, l'attaque est la meilleure défense en vélo. Sans doute que certains coureurs ont payé les efforts de la veille. Après, savoir si je vais attaquer comme cela à chaque étape de montagne, pas forcément. Déjà, ce dimanche, il y a une étape terrible en montant Vertine qui nous attend. Alors on verra, il va falloir défendre ce maillot jaune intelligemment.
Yeah, we will do our best to defend. And just ride defensive from now on.
Et puis le français Guillaume Martin, qui ira au JO de Tokyo, est arrivé à la 8e place. On l'écoute.
Eh ben, je me dis certainement pas en tout cas que je vais essayer de le suivre parce que c'était tout bonnement impossible. Oui. Et c'était très, très impressionnant. Après, je sais pas les écarts qu'il a fait. Je pense que c'est assez phénoménal parce que je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres favori du classement général qui me rattrape ensuite et aucun m'a rattrapé, donc ouais, c'est impressionnant, il n'y a pas d'autre mot.
Benoît Cosnefroy ira également au Japon. On l'écoute.
Je sentais la sélection possible, c'était dans un coin de ma tête et j'en rêvais. Et sincèrement, quand Thomas m'a appelé, j'étais un gosse et je suis tellement heureux de pouvoir représenter les couleurs de l'équipe de France là-bas, au JO. Sincèrement, de voir tous ces sports ensemble, c'est les valeurs olympiques et c'est les valeurs de base du sport. Et c'est juste les souvenirs d'enfance, de voir plein de gens en compétition, où ça peut aussi changer le destin d'une vie et changer tout simplement une vie.
On passe au tennis à Wimbledon, le troisième tour, quelques résultats d'hier, avec l'Australien Nick Kyrgios forfait pour blessure aux abdominaux lors de la première manche contre Félix Auger-Aliassime, le Canadien. Ça passe pour Ash Barty contre Siniaková en deux manches. Alia Tomljanovic, l'Australienne, a gagné contre Yelena Ostapenko, la Lettonne, en trois manches. Roger Federer a lui gagné en quatre manches contre Cameron Norrie, le Britannique. Et ça passe aussi pour Medvedev et Zverev. Brigitte Henriquez a été élue à la tête du CNOSF, le Comité National Olympique du Sport Français. Précision de Christophe Diremzian pour RFI.
Brigitte Henriquez n'a jamais connu le frisson des Jeux, le football féminin ayant été admis trop tard dans sa carrière. Mais cette professeure de PS, rodée aux arcanes institutionnels et adoubée par le président sortant Denis Masseglia, est très fière de s'inscrire dans les pas des pionnières du sport olympique français.
On a inauguré la statue d'Alice Mia il n'y a pas très très longtemps. Elle s'est énormément battue pour permettre aux femmes de participer aux Jeux Olympiques. Mon parcours, c'est un parcours de combattante. Moi aussi, j'ai pas pu pratiquer le football dans un club quand j'étais jeune. Et voilà, je suis prête à relever le challenge de faire en sorte que ces 108 fédérations nous permettent de peser beaucoup plus dans le débat public.
Relance de la pratique du sport en club après la crise sanitaire, Paris 2024, maintien des postes de cadre technique, les chantiers ne manqueront pas pour la future ex-dirigeante de la Fédération française de football. Son président, Noël Le Graët, ne doute pas qu'elle les mènera à bien.
Elle est d'une grande gentillesse, une grande souplesse. C'est pas une femme à chercher des conflits. Elle a vraiment à la fédération une estime considérable et c'est une fille qui travaille énormément avec beaucoup d'intelligence. Ce sera, je suis persuadé, une bonne réussite pour le CNO.
Un comité pourtant d'ordinaire méfiant vis-à-vis des personnalités issues du football, discipline à l'esprit assez peu olympique. Le tournoi de Tokyo n'est même pas intégré au calendrier FIFA et les clubs professionnels refusent de libérer les joueurs. Mais Brigitte Henriquez promet que la donne changera pour les Jeux de Paris.
Et puis le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, c'est ce dimanche et c'est le Néerlandais Max Verstappen qui partira en pole position. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Eh bien, comme chaque dimanche, nous nous attardons à présent sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Focus aujourd'hui sur Mathieu Van Der Poel, le Néerlandais, coureur cycliste, héros de la première semaine du Tour de France, même s'il a cédé hier le maillot jaune.
Oui, fantastique, Mathieu Van Der Poel, hein, qui a fait souffler un vent de fraîcheur littéralement sur le Tour, comme l'avait fait il y a 2 ans le Français Julian Alaphilippe, qui avait porté le maillot jaune de leader pendant les 2 tiers de la course. Cette année, Mathieu Van Der Poel n'a pas bien commencé le Tour. Hein. On attendait le Néerlandais dès le premier jour entre Brest et Landerneau, en Bretagne, avec la côte de la Fosse au Loup. Et dans le final, ce jour-là, le Néerlandais de 26 ans n'était pas dans le coup. Il a laissé Mathieu Van Der Poel la vedette à son aîné et rival Julian Alaphilippe, qui a frappé d'entrée la première cartouche de ce Tour 2021, l'étape et le maillot jaune pour le Français. Mais il ne fallait surtout pas enterrer Mathieu Van Der Poel. Dès le lendemain à Mur de Bretagne, il a remis les pendules à l'heure dans un final similaire, une grosse bosse à l'arrivée, une double attaque foudroyante qui a séché tout le monde. Il a remporté cette deuxième étape et s'est emparé du maillot jaune. Et depuis, il a résisté avec panache pendant 6 jours jusqu'à l'abandonner, ce maillot jaune au Grand Bornand. Mais dans le contre-la-montre, d'abord entre Changé et Laval, il a fait quasiment jeu égal avec les spécialistes et Tadej Pogacar. Lors de l'étape entre Vierzon et le Creusot, ensuite dans le Morvan, il a passé 200 km à animer l'échappe du jour aux avant-postes. Mathieu Van Der Poel, héroïque, le plus français des Néerlandais. Alors il a fini, oui, par craquer ce samedi dans les premiers cols des Alpes, éreinté par tous ses efforts. Il a fini à 21 minutes de Tadej Pogacar, qui est le nouveau leader maillot jaune de ce tour.
Effectivement, il est franco-néerlandais, Mathieu Van Der Poel. Racontez-nous son histoire.
Bien, le vélo, c'est comme Astérix et la potion magique pour Mathieu Van Der Poel. Il est tombé dedans quand il était tout petit. Son père, Adrie Van Der Poel, néerlandais, a été un coureur de premier plan dans les années 80, dans les classiques belges notamment. Et son fait de gloire à son père, c'est d'avoir porté le maillot jaune du Tour de France sur l'édition de 1984. Il avait endossé le maillot au soir de la 4e étape à Béthune. Adrie Van Der Poel, néerlandais, c'est la nationalité de coureur de Mathieu Van Der Poel. Quand il gagne, c'est au nom des Pays-Bas. Mais une part de lui, et pas des moindres, est aussi française. Sa mère, Corinne, est française. Sa mère qui est la fille de Raymond Poulidor, l'immense champion français, coureur des années 60 et 70, Poupou, décédé en 2019 à l'âge de 83 ans et qui tous les ans revenait sur le Tour de France. Vous l'avez compris, Raymond Poulidor, c'est donc le grand-père de Mathieu Van Der Poel. Et dimanche dernier, à Mur de Bretagne, Poupou n'était pas là pour voir son petit-fils revêtir le maillot jaune, mais ses parents, hein, Mathieu Van Der Poel, en revanche, Adrie et Corinne étaient là. La symbolique était magnifique, ce maillot jaune. Raymond Poulidor, 14 Tours de France, 8 podiums, deuxième et troisième au final à Paris, à 8 reprises. Ce maillot jaune, Raymond Poulidor ne l'a jamais porté, pas même un jour, barré notamment par Jacques Anquetil. Et donc, cette histoire de voir le petit-fils Mathieu Van Der Poel se parer, lui, du maillot jaune, cette histoire est très belle. Le maillot jaune, comme son père, Adrie, en 84, Mathieu Van Der Poel avoue qu'ils en ont souvent parlé avec son papy, Raymond Poulidor, de ce maillot jaune, de cette conquête impossible. Dimanche dernier, au moment de passer la ligne d'arrivée à Mur de Bretagne, on a vu Mathieu Van Der Poel pointer son index vers le ciel.
Depuis le départ de Brest, il y a 10 jours, c'est une véritable communion entre Mathieu Van Der Poel et le public français.
Oui, parce que même si le public français, public du Tour, avait entendu parler cette filiation, bien sûr, entre Raymond Poulidor et Mathieu Van Der Poel, c'était assez lointain, assez diffus. Le néerlandais, franco-néerlandais, n'ayant pas disputé de Tour de France avant cette année, avant cette édition 2021, c'est son tout premier tour à 26 ans, comme son grand-père à l'époque, 26 ans, Raymond Poulidor, qui en a couru, on l'a dit, 14 ensuite, hein, 14 Tours de France jusqu'à 40 ans. Eh bien, jusque-là, jusqu'à cette année, Mathieu Van Der Poel, lui, pour le public français, c'était ce coureur néerlandais spécialiste de cyclocross, 4 fois champion du monde de cyclocross, qui, sur la route, bataillait dans les classiques, avec Julian Alaphilippe et Wout van Aert, le Belge. Mathieu Van Der Poel, vainqueur sur la route de l'Amstel Gold Race en 2019, du Tour des Flandres en 2020, il apporte dans sa façon de courir un vent de fraîcheur fantastique. Le public du Tour l'a complètement adopté, il ne compte pas ses efforts, il est capable, on l'a dit comme vendredi entre Vierzon et Le Creusot, de dynamiter le peloton sur plusieurs heures de course, de partir dès les premiers kilomètres, maillot jaune sur le dos, sans compter ses efforts dans une échappée au long cours avec une trentaine d'autres coureurs. Et il l'a dit, ce maillot jaune, tous les encouragements au bord de la route l'ont complètement sublimé. On l'a vu également dans le contre-la-montre à Laval, où il avait quasiment tenu tête au tout meilleur. Il court chaque jour comme si c'était le dernier, hein, loin des schémas de course cadenassés, ennuyeux, que nous sert parfois le cyclisme moderne, avec les oreillettes et les directeurs sportifs là, qui dictent aux coureurs ce qu'ils doivent faire. Le public découvre en plus, eh bien, que Mathieu Van Der Poel parle français. Ben oui, hein, on l'a dit, sa maman Corinne, fille de Raymond Poulidor, elle est française, Raymond Poulidor lui aussi. Ce qui est merveilleux, c'est de voir qu'au fil des jours, il se lâche, il s'est lâché de plus en plus, répondant, prenant le temps de répondre en français aux médias. Les spectateurs l'ont adoubé et il est entré, même s'il a perdu ce maillot jaune ce week-end, il est entré dans la légende du Tour, Mathieu Van Der Poel.
Mathieu Van Der Poel ne gagnera pas le Tour de France, pas cette année en tout cas, mais il a d'autres objectifs cet été.
Alors, il reste 15 jours de course et les étapes les plus difficiles en montagne sont encore à venir. On arrive tout juste dans les Alpes, il y a bientôt le Mont Ventoux, puis ensuite les Pyrénées. La haute montagne, ça n'est pas son terrain de prédilection. On l'a vu ce samedi avec les deux premiers grands cols des Alpes jusqu'au Grand Bornand, mais son tour est déjà réussi au-delà de ses espérances et sans doute qu'il aurait pu se battre un peu plus jusqu'au Grand Bornand, mais avec tous les efforts accumulés, il a senti à un moment donné qu'il n'avait plus les armes pour contrer les attaques de Tadej Pogacar. Mais le bilan, oui, il est déjà fantastique. Une victoire d'étape, 6 jours en jaune avec le maillot de leader et à l'horizon, l'autre grand objectif, bien entendu, qui fera peut-être d'ailleurs qu'il n'ira pas au bout de ce Tour de France et qu'il abandonnera dans quelques jours, c'est l'épreuve de VTT des Jeux Olympiques à Tokyo, au Japon. Oui, les JO, il y sera, Mathieu Van Der Poel. Il en a même fait le grand objectif de son été, après le Tour. Lui qui est capable de gagner sur tous les terrains, en cyclocross, on l'a dit, dans la boue, il faut parfois porter son vélo, en VTT, sur la route, c'est le prototype du cycliste moderne, tout terrain. L'épreuve de VTT des Jeux Olympiques, elle est programmée le 26 juillet, 8 jours seulement après l'arrivée du Tour de France à Paris. Il ira donc défier au Japon les spécialistes de la discipline, le VTT, essayer de décrocher une médaille, voire le titre olympique.
Merci Émile, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, nous avons le très grand plaisir d'avoir Myriam Boisbouvier-Wiley, la consul honoraire de France dans le Victoria et aussi la présidente de la Bastille Day French Festival Melbourne 2021. Bonjour et bienvenue Myriam sur SBS French.
Merci de m'accueillir et bonjour à tous.
Myriam, on parle aujourd'hui du festival à Melbourne pour célébrer Bastille Day le 16 et le 17 juillet prochain. Et ce sera à Federation Square. Et beaucoup de choses à signaler, c'est All Things French, comme on dit.
All things French, comme on dit en bon français. Nous sommes de retour à Federation Square après une interruption d'une année. En 2020, on avait dû malheureusement annuler le festival, mais nous sommes repartis, j'allais dire de pied ferme, mais pas vraiment ferme, parce que ça a été un peu bancal. Mais nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite et vraiment très fiers de pouvoir dire rendez-vous les 16 et 17 juillet à Fed Square.
Et donc, deux jours de célébration de culture française, de musique française, d'histoire, de la mode, de l'art de vivre et des conférences également?
Oui, alors le festival, le concept du festival reste le même, c'est-à-dire que nous avons un marché d'hiver avec des exposants et des artisans français qui viennent vendre leurs produits et nous régaler avec leur nourriture française. Et autour de ce marché, qui est donc le cœur du festival, nous avons des événements satellites et des conférences que nous avons baptisées les Lumières, du fait que la Révolution française est arrivée à l'issue du siècle des Lumières, où les philosophes de Voltaire à Rousseau avaient semé le doute parmi les aristocrates et qui a vraiment abouti à la Révolution française et à l'éclosion des valeurs des démocraties actuelles.
Et donc, il y aura aussi des conférences sur le thème les Lumières, sur l'histoire, la culture et les arts.
Exactement. Alors, nous avons cette année 4 conférences, c'est comme les 3 mousquetaires, ils sont 4, bleu, blanc, rouge et vert. Donc la conférence, elles ne sont pas dans l'ordre chronologique, mais bleu sera une conférence le samedi après-midi concernant, ça c'est même pas une conférence, ça sera plutôt un panel, concernant les clichés de français dans... du style de « est-ce que tous les hommes portent un béret en France ?» ce genre de choses assez amusantes à discuter. Nous aurons une conférence blanc le vendredi à midi avec le senior curator, le commissaire de l'exposition des impressionnistes français qui arrivera au NGV, qui vient d'arriver au NGV du musée de Boston et qui nous parlera des impressionnistes français et notamment... C'est le docteur Ted Gott qui est un raconteur extraordinaire. Il ne faut pas rater cette conférence-là du vendredi. Nous aurons professeur Peter Maxey qui nous fera la conférence Lumière rouge sur la Révolution française. Et Peter Maxey est un grand supporter du festival. Il nous fait des talks chaque année et il est probablement une des... grosse pointure concernant l'histoire de la Révolution française d'une manière internationale. C'est incroyable de la voir. Et la dernière conférence qui sera plutôt un panel de nouveau, les Lumières vertes, sera sur un thème qui est-ce que la décarbonisation sera forcément néfaste à l'économie? Et nous aurons des CEOs de grosses boîtes qui seront interviewés par un journaliste très connu à Melbourne qui s'appelle Alan Kohler. Et nous aurons le CEO de ANL, une filiale de CMA-CGM, oui. CEO de Engie, donc électricité, oui. Et le Louise Davidson qui est la CEO des investisseurs australiens dans les fonds de retraite. Donc, une belle discussion concernant vraiment un sujet très, très important pour nous, quoi.
Et à signaler aussi qu'il y aura des projections sur le grand écran de Federation Square et la projection de documentaires, un documentaire qui s'appelle Home Shift Home, et aussi la projection du French Cancan sur le grand écran.
Ah oui, alors absolument. On ne sera pas que dans l'intellectuel. Oh, il faut pas s'attendre à se dire mon Dieu ce festival.
Non, c'est il juste y aura de la musique aussi.
Il y en a absolument pour tous les goûts. Et nous avons comme nouveauté la Plaza cette année, qui est donc qui nous donne accès au grand écran et sur lequel nous verrons du French Cancan, ce petit court métrage produit par une Melbournienne, une Française de Melbourne, Home Shift Home, sur les aléas de l'immigration, en fait. Nous aurons des tas de contenu digital parce que, voilà, nous sommes préparés nous sommes préparés dans un contexte Covid à avoir à la fois du contenu live et du contenu digital.
Absolument. Et il y a aussi ce walking tour pour découvrir les faces cachées de la France à Melbourne.
Absolument. Et alors celui-ci, il y en aura deux le samedi et il est guidé par une guide professionnelle qui pourra donner des tuyaux à la fois en anglais et en français. Donc pour ceux qui veulent se lancer dans le tour en français pour non seulement découvrir la France cachée de Melbourne, mais en plus en français, ils pourront le faire ou alors le faire tranquillement en anglais.
Et Emotion, c'est la possibilité d'explorer la beauté de la France. C'est à la mairie de Melbourne, au Melbourne Town Hall.
Oui, alors là, l'émotion, c'est une exposition de photos. Il y aura 35 grandes images qui s'animent et qui s'animent avec votre téléphone qui peut, grâce à la connexion Wi-Fi, vous mettez votre téléphone dessus et les images s'animent et vous font explorer la France, de toutes les régions que nous ne pouvons pas aller en ce moment, nous ne pouvons pas aller en France, comme tout le monde le sait. Donc la France vient à nous et c'est une belle collaboration avec Atout France, l'Institut français et l'Alliance française de Melbourne. Et ça sera à Thompson Hall, dans le City Hall, donc à deux pas de Fed Square.
Donc à la mairie de Melbourne.
À la mairie de Melbourne, oui.
Quel est le message que vous lanceriez pour la communauté française, francophone, francophile du Victoria pour venir à Federation Square le 16 et le 17 juillet prochain?
Alors, je dirais que nous avons une équipe dynamique qui a produit un festival attrayant qui sera une belle vitrine de toutes les joies et les atouts de la France. Que nous apporterons un peu de joie de vivre au milieu de l'hiver après avoir vécu beaucoup de semaines et de mois en confinement. Nous serons ravis de se retrouver et d'être tous réunis ensemble. Il y en a pour tout le monde, des gastronomes aux érudits, aux amateurs de musique, aux jeunes et aux moins jeunes. Et nous sommes tellement ravis d'être soutenus par nos sponsors qui ont cru en nous. Et nous ne voulons pas non plus les décevoir.
Merci à vous, Myriam, et à très vite à Federation Square.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et voilà, 13h56 sur les ondes de SBS French et nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous mardi à 13h. À bientôt.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.